Bienvenue à l'émission Les pierres qui roulent, l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, en direct aujourd'hui de la chapelle du Man, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, pour une émission aujourd'hui consacrée à l'étude des genres, à l'épreuve de l'archéologie. Quelques lignes d'actualité pour commencer, tirées d'un texte d'une pétition actuellement portée par les enseignants de l'école maternelle jusqu'aux universités. Non, la prétendue théorie du genre n'existe pas, mais oui, les études de genre existent. On n'est pas homme ou femme de la même manière au Moyen-Âge et aujourd'hui. On n'est pas homme ou femme de la même manière en Afrique, en Asie, dans le monde arabe, en Suède, en France ou en Italie. Le genre est un concept pour penser des réalités objectives, un outil que les scientifiques utilisent pour penser et analyser ces différences. Ce court extrait place l'étude des genres ou les gender studies au sein même de l'actualité et rappelle à quel point elles amènent une réflexion autre sur les sociétés, les normes et les rôles sociaux. Ce thème s'inscrit dans la continuité de la thématique traitée lors de notre première émission, ici au MAN, qui portait sur les inégalités avant l'histoire, où on avait pu aborder les inégalités, sauf la question des inégalités entre hommes et femmes. Pour cette deuxième émission, nous nous inscrivons au sein de notre cycle annuel sur les dualismes, que nous poursuivrons cette année en votre compagnie. Pour l'heure, il semble plus que jamais à propos de nous interroger sur le genre comme un élément de construction culturelle et de tenter de dresser une généalogie de son évolution au fil des âges afin de faire la part entre nos stéréotypes, nos éventuels fantasmes et les réalités sociales que l'archéologie contribue à nous dévoiler. Principalement portée par des disciplines sociologiques et littéraires et dans des sphères anglophones, les gender studies prennent timidement leur place dans les recherches archéologiques nationales. Aujourd'hui, nous avons donc souhaité interroger l'enjeu de l'étude des genres en archéologie en nous demandant quelles réflexions elles apportaient à la fabrique des identités et des rôles sociaux à travers les âges. Nous en discuterons en compagnie de nos deux invités. Chloé Bellard, tout d'abord, qui est doctorante en archéologie à l'École pratique des hautes études, au laboratoire EA4115 Istara, et affiliée à l'École normale supérieure, au laboratoire AOROC. Vous êtes spécialiste de l'âge du fer et de l'étude du genre en contexte funéraire, et vous êtes déplacée aujourd'hui depuis Nantes. Bonjour Chloé Bellard. Et parce que l'archéologie, ce n'est pas que de l'archéologie, Christophe Darmanjat nous accompagnera également, économiste et anthropologue social, enseignant à l'université Paris 7 Denis Diderot et auteur de l'ouvrage « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était », réédité aux éditions Agone en 2012. Un ouvrage qui donne des perspectives sur la notion du genre dans les sociétés actuelles et passées. Bonjour Christophe Darmanjat.
Bonjour, une petite correction, c'est aux éditions Smolny.
Ah. Excusez-moi.
Il n'y a pas de mal.
Nous serons accompagnés virtuellement par Jenny Corin, dont j'ai fait l'interview, qui est archéologue, chercheur associé à l'UMR 6298, Arteis, du CNRS, et dont l'interview ponctuera l'émission. Et enfin, je serai entourée aujourd'hui par Lydia, qui animera avec moi les entretiens avec nos invités, et Émile et Martine, qui viennent nous prêter main forte depuis le musée d'Iquibranly pour faire des petites chroniques avec nous aujourd'hui. C'est parti pour une émission d'un autre genre.
La manière la plus rigoureuse d'aborder le genre est par le funéraire et particulièrement par l'étude des sépultures à inhumation. Il n'y a que dans ce cas de figure où l'on pourra opérer une corrélation exacte entre les données biologiques, d'une part, et les objets associés aux défunts, d'autre part.
Voilà, on vient d'entendre donc un extrait de l'interview que j'ai menée avec Jenny Corin, À propos donc des traces hein, du genre, puisque l'objet, la trace archéologique est le sujet même sur lequel travaille l'archéologue, j'aimerais du coup me tourner vers nos intervenants. Peut-être Chloé Bellard, vous avez quelque chose à dire sur les traces funéraires de l'archéologie, puisque c'est votre sujet de travail.
Donc c'est une bonne question, parce que comme en archéologie, on travaille sur le matériel. Donc en fait, on va avoir des traces pour reconstituer les rapports de genre, les traces directes, ça va être seulement sur les ossements. Donc on va pouvoir retrouver des différences de traitement ou des traces de violence, des différentes alimentations. Donc ça, c'est en fait les seules preuves directes de rapports de genre qu'on va pouvoir réétablir. Par contre, dans tout ce qu'on va avoir donc, pour le mobilier ou pour l'iconographie, c'est important de retenir qu'on a seulement une représentation des rapports entre les genres. Et donc là, on a déjà une petite nuance importante à souligner.
Justement, la nuance qui existe, je crois, entre genre et sexe.
En fait, ce qui va être compliqué en archéologie quand on utilise la notion de genre, c'est qu'on va devoir, en tout cas pour l'instant, maintenir une séparation entre le sexe biologique du défunt, par exemple, et donc son sexe social, entre guillemets, qui là va être donc la représentation par les objets, différents objets qui vont être attribués soit aux hommes, soit aux femmes. Mais ça, c'est évidemment une séparation qui est totalement artificielle et qui, là, est propre à l'archéologie, par contre.
Et iconographiquement, on a des représentations sexuées, mais quand il s'agit de la parure, par exemple, un personnage avec une robe n'est pas forcément une femme.
Et c'est ça que la notion de genre permet de soulever, en fait, en archéologie, qui est très... justement, on n'a pas nécessairement une corrélation directe avec le sexe anatomique d'un individu et sa représentation, donc vestimentaire ou autre. Et donc, c'est ça l'enjeu primordial de la notion de genre, en fait.
Et justement, Chloé Bellard, est-ce que dans votre travail, vous avez rencontré des cas où cette indistinction posait problème, c'est-à-dire où on ne pouvait pas deviner aux matériaux qu'on retrouvait le genre, le sexe et le genre de la personne?
Alors ça existe, donc ça, donc voilà, la période de l'âge du fer que je connais plus, après je pense que ça peut se retrouver sur d'autres périodes aussi, on a dans beaucoup d'études, et ce dès le 19e siècle, une catégorie de sépultures et de défunts qu'on va appeler les indéterminés. Et donc ça va être toutes les tombes qui ne vont pas avoir justement d'objets genrés, donc on va pas pouvoir, qui ne sont pas déposés plus couramment, soit avec les femmes, soit avec les hommes. Et donc déjà, le fait que ces individus existent permet de nuancer donc cette dualité homme-femme archéologique.
Christophe Damanja.
C'est qu'il y a quand même deux constantes dans toutes ces sociétés qu'on retrouve absolument partout, du pôle Nord au pôle Sud, sur les cinq continents, etc. D'abord, c'est que c'est des sociétés qui séparent les activités des hommes et des femmes. Ils séparent avec plus ou moins de rigueur, avec plus ou moins de comment dire, c'est plus ou moins strict, mais en tous les cas, il y a des occupations d'hommes et des occupations de femmes dans toutes ces sociétés, sans aucune exception. Et ça, je pense qu'on en retrouve quand même la trace en archéologie, au sens où dès qu'on peut justement commencer à sexuer les restes et à sexuer, disons, les objets qui sont associés, on retrouve cette idée de séparation différente. Et le deuxième aspect, c'est que partout, et là aussi l'intervenante le dit, partout et toujours, ce sont les hommes qui ont eu le monopole des armes. Alors un monopole là aussi qui n'est pas toujours strict. Il y a des tombes de femmes avec des armes dans certains endroits, etc. Mais c'est un peu les exceptions qui confirment la règle. Et de toute façon, majoritairement, c'est les hommes. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait que dans aucune société connue, c'est les femmes qui ont dominé les hommes.
On reviendra justement sur ces questions d'interprétation dans notre deuxième partie. Peut-être on peut faire une petite pause avec la chronique d'Émile, qui va, au-delà de parler uniquement de l'âge du fer et du néolithique, repartir plus loin vers la préhistoire.
Oui, donc je vais me retrancher derrière l'imaginaire pour ne pas m'offrir à vos critiques, messieurs les archéologues qui sont aussi dans l'assistance, parce que vous allez voir que je fais quelques entorses à la rigueur scientifique dans ma chronique. Parce qu'elle fonde son discours sur les traces matérielles observables de notre lointain passé, et parce que nous vivons dans une société industrielle fascinée par la technique, la préhistoire nous est souvent présentée comme une longue succession d'exploits scientifiques et techniques. On nous montre la fresque de nos ancêtres où Australopithecus, Habilis, Erectus, Néandertalensis et Cro-Magnon sont gentiment à la queue leu-leu et on nous dit que c'est l'un, que l'un s'est mis debout, que l'autre a maîtrisé l'outil, l'autre encore le feu, et que nous sommes arrivés enfin avec notre géniale silhouette droite et imberbe pour révolutionner tout ce qui se faisait de pas trop mal dans la nuit des temps des âges farouches. En fait, nos profs d'histoire et de biologie nous présentaient nos ancêtres comme les commentateurs de la WWE, la plus grande ligue de catch outre-Atlantique, présente les showmen. Australopithecus règne en maître sur le grand rift éthiopien depuis des millions d'années. Et c'est son challenger, Habilis, qui fait son entrée. Mesdames et messieurs, c'est à un monstre sacré qu'Habilis va s'opposer. Australopithecus conquérant de la bipédie du haut de son mètre 35. Capacité crânienne 550 cm3. Extension géographique à tout le continent africain. Va remettre son titre en jeu face à Homo Habilis, 700 000 ans d'expérience à peine. 40 kg, 1m50, 800 cm3 de jus de crâne. Oui, 800 cm3. Redoutable virtuose du silex et du galet aménagé. Oh, le combat s'annonce rude. Mais quoi ? Un nouvel homo fait son entrée sur le rift. Plus grand, plus beau, plus fort, il se tient incroyablement droit et porte une torche dans sa main. On peut lire son nom sur son short en poil de roc. Homo Erectus ! On pourrait ainsi poursuivre l'exercice de la confrontation virile de ces ingénieurs en gourdin jusqu'à l'ineffable avènement de l'homo sapiens sapiens, mais je vais vous épargner cet exercice. Car non, la préhistoire, pas plus que l'histoire de l'homme, ne se résume à une succession d'avancées techniques. Si l'espèce humaine se targue d'avoir porté à son summum le regard objectif et réaliste appliqué à la nature, qui est l'instrument premier de la science, elle se vante moins souvent d'avoir développé ce regard surréaliste, cette subversion du réel qu'est l'imaginaire. Pourtant, dès l'invention du langage articulé et jusqu'au premier pas du genre homo, et avec la différenciation progressive du substantif de l'adjectif, le pouvoir démiurgique de l'intelligence humaine était libéré. L'homme pouvait dire que l'arbre était vert, mais il pouvait aussi concevoir un arbre doré, un arbre parlant, un arbre marchant, etc. L'homme devenait à son tour créateur. Des créations que lui inspira sa vie de chasse et de cueillette, nous n'avons hélas que peu de témoignages. Les millions d'années qui s'écoulèrent entre le début du paléolithique inférieur et la fin du paléolithique supérieur, il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années, n'ont pas laissé de traces des incursions humaines dans le monde imaginaire. Les peintures et les parures qui portaient cet imaginaire subsistaient le temps de quelques vies d'hommes sur le corps des hommes et disparaissaient ensuite, livrées à une inévitable décomposition. Ce n'est donc qu'avec la fin du paléolithique supérieur qu'on peut commencer à se faire une idée vraisemblable des formes et des fonctions des productions de l'esprit humain. Et pour ce qui est des représentations de la femme, c'est avec l'art pariétal, mais surtout avec les statuettes en os et en ivoire, les fameuses Vénus, que nous avons les premières données. C'est désormais un fait attesté. L'art pariétal a donné une place tout à fait mineure à la figuration humaine. Dans les grottes, ce sont essentiellement des animaux qui sont représentés en majesté, le plus souvent hors de leur environnement naturel, tels de purs esprits incarnant certainement les forces mystérieuses en exercice dans la nature. Le masculin et le féminin ne sont présents dans l'art pariétal que par le sexe des animaux peints et par leur éventuelle association à l'un ou l'autre des genres. Les Vénus théatopiges sont bien plus explicites. Répandues dans toute l'Europe, des côtes atlantiques à la Russie, avec leurs fesses et leurs poitrines surdimensionnées, elles attestent à minima d'une fascination humaine pour le corps changeant de la femme et pour certains archéologues d'un culte à la féminité et à la fécondité. Ce qui est très étonnant, c'est que ces représentations ne disparaissent pas avec le néolithique. Elles se transforment. En effet, en même temps qu'aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ, quelque part au Proche-Orient entre Jéricho et Tchatal-Ouyouk, se développaient les premiers villages d'éleveurs pratiquant l'agriculture, les statuettes figurant des femmes aux mensurations cataclysmiques continuent de s'étendre, mais elles présentent désormais une attention nouvelle quant à la finesse de leurs traits et à leurs regards, chose que les artistes paléolithiques avaient peu ou prou négligée. Ensuite, au fur et à mesure que les religions polythéistes puis monothéistes vont s'installer comme les intermédiaires obligés entre notre monde et celui des esprits, les femmes vont peu à peu être évincées des places prépondérantes de nos panthéons. Elles y subsisteront bien sûr, mais c'est l'homme, cet homme dont vous affirmez Christophe d'Armanjat, qu'il a partout et de tout temps cherché à conserver son monopole sur les armes, c'est l'homme donc qui, ayant peu à peu pris goût à sa propre représentation, a fini par en inonder notre imaginaire. J'aimerais donc finir par une question adressée à vous, nos chers invités. Peut-on dire effectivement que les transitions successives de la préhistoire ont peu à peu vu l'affaiblissement de l'image de la femme dans les productions artistiques humaines? Et si oui, quelle est l'interprétation de ce phénomène?
C'est une excellente question que je ne vous remercie pas du tout de m'avoir posée.
Ce n'est pas une question piège.
Y a-t-il eu un affaiblissement de la représentation des femmes? Je n'en sais trop rien. Je pense qu'il faut en plus se méfier de notre européano-centrisme. Enfin, en tous les cas, l'art paléolithique dont vous parliez à l'instant, c'est l'art paléolithique européen. Mais si on va dans d'autres endroits, je pense à l'Australie, je pense à l'Afrique du Sud avec les Bushmen, où il y a des populations techniquement qui se situent en tous les cas dans quelque chose de voisin de notre paléolithique, là ils représentent des êtres humains et ils représentent des hommes et des femmes. Donc je pense qu'il n'y a pas un art paléolithique, il y en a eu plusieurs et que c'est très difficile de faire une loi générale. Et alors passer en plus de la représentation à ce que ça veut dire pour la société, par exemple ces fameuses Vénus du paléolithique, vous avez fait allusion au fait que certains y voyaient un culte de la féminité. Alors d'abord on ne sait pas du tout si c'est un culte, on ne sait pas si c'était religieux, on ne sait pas, voilà. Et vous pouvez avoir des sociétés où on fait le culte de la féminité, ça ne veut pas du tout dire qu'on met les femmes sur un piédestal, hein. Ça n'a rien à voir, voilà.
On parlait justement d'européanisme, vision très européocentrée. Vous parlez beaucoup dans vos travaux, vous présentez en tout cas tout ce qui concerne l'historiographie justement des études de genre et comment le 19e siècle a pu influencer nos visions actuelles en archéologie aujourd'hui sur l'archéologie des genres.
Oui, c'est vraiment à partir du 19e, mais surtout, on a vraiment toute une idéologie où on va vraiment opposer hommes et femmes comme deux entités sociales nettes et uniformes. Et donc, c'est bien ce que la notion de genre rejette. C'est le déterminisme biologique et ces deux entités.
Et qu'est-ce qu'on associe à chacune de ces deux entités, justement?
C'est encore présent dans notre idéologie actuelle, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Voilà, c'est les hommes, la puissance, et les femmes, plutôt la passivité sociale.
Et dans les tombes, comment est-ce que cela se traduit?
Ça va se traduire, on va beaucoup reconnaître seulement les hommes dotés d'armes et les femmes dotées de parures. Et par contre, donc justement, tous les individus indéterminés, par exemple, on ne va pas souvent les prendre en compte dans les interprétations.
Et ces individus-là, est-ce que justement, ils ne peuvent pas servir de levier à une remise en cause de ces pratiques un petit peu centrées sur le 19e?
Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de faire dans ma thèse, en fait. C'est essayer de proposer une méthode d'analyse des ensembles funéraires qui ne soit donc pas basé seulement sur une dualité homme-femme qu'on ne retrouve pas archéologiquement, mais essayer d'aborder les nécropoles à partir d'un point de vue, donc là pour le coup, parce que ça fonctionnait pour les nécropoles de Champagne à l'âge du fer, c'est d'un point de vue hiérarchique en fait. C'est-à-dire que certes, il y a des hommes enterrés avec des armes et des femmes enterrées avec des parures, mais tous les hommes ne sont pas enterrés avec des armes et toutes les femmes ne sont pas enterrées avec des parures. Et donc on va avoir une gradation hiérarchique entre guillemets, puisque ça reste dans le domaine du funéraire, donc on ne peut pas réellement rattacher un statut particulier à ces individus, mais qu'il faut mieux essayer d'aborder les nécropoles selon cet axe-là.
Christophe Darmonja.
Pour rebondir sur ce type de société, ce type de période, c'est des sociétés où il y a déjà des inégalités de fortune et de puissance entre les membres de la société. Donc tout ça va se conjuguer avec les éventuelles inégalités de genre pour former quelque chose qui va être évidemment complexe, parce que du coup on va avoir certaines femmes des classes riches ou favorisées qui vont être dans un statut plus élevé que les hommes des classes défavorisées, etc. Tout ça va se retrouver en plus dans le mobilier funéraire. La manière dont les sociétés enterrent leurs morts et avec quels biens, c'est quelque chose d'assez compliqué. En réalité, c'est très difficile de donner une image générale. Si vous ouvrez les tombes de la société actuelle, si on est des archéologues qui, dans 1000 ans ou 5000 ans, ouvrons les tombes de la société actuelle, on en conclura que notre société était égalitaire, puisque finalement, on ne retrouve aucun bien enterré, ce qui serait évidemment une conclusion fausse. Donc, tout ça pour dire que les problèmes de statut des genres se mélangent éventuellement avec d'autres inégalités, d'autres formes de hiérarchie et qui rendent l'affaire d'autant plus compliquée.
Chloé Bellard.
Et c'est vraiment, oui, donc voilà, pour aller juste un peu plus loin, c'est justement un des aspects de la notion de genre et qui est vraiment primordial en archéologie, c'est ce qu'on va appeler, donc c'est Laure Bérény dans son ouvrage Introduction aux Gender Studies, qui dit c'est l'aspect d'intersectionnalité. C'est-à-dire que le genre d'un individu ne peut pas se comprendre sans prendre en compte son âge, sa classe sociale, etc. Et là, on le retrouve aussi actuellement, on ne va pas considérer de la même manière une petite fille de 5 ans et une femme de 70 ans, ou une femme qui appartient à la classe ouvrière, ou qui appartient à une classe plus élevée, quoi. Et donc ça, c'est vraiment primordial.
Christophe Darmangeat.
Juste parce que je m'aperçois qu'il y a quand même une catégorie de traces archéologiques dont nous n'avons pas parlé, et je pense que c'est dommage, c'est qu'il peut y avoir dans certains cas des traces sur les squelettes laissées par les différentes occupations du vivant des gens. Et là, je sais qu'il y a des... Alors, encore une fois, je ne suis pas archéologue, mais j'essaye de me tenir un peu au courant, et je sais qu'il y a des études, et en particulier un préhistorien français qui s'appelle, sauf erreur, Sébastien Villotte, mais je peux écorcher son nom parce que je le cite de mémoire, mais il est de l'université de Bordeaux, qui a étudié sur les populations préhistoriques une déformation qui est, pour faire simple, celle des lanceurs actuels de javelot et de baseball, qui est la déformation du coude que laissent des jets répétés. Et il trouve ça, pour des populations préhistoriques, uniquement sur les squelettes masculins et pas sur les squelettes féminins. Ce qui est un indice quand même qui tend à montrer que les hommes chassaient au javelot, au propulseur, et pas les femmes dans ces populations-là.
Très bien, on va faire une courte pause et on vous retrouve après.
Voilà, on vient d'entendre Stevie Wonder, You Can't Judge a Book by Its Cover, pardon pour mon anglais. On se rend compte qu'il y a des traces et puis des interprétations qui sont liées à ces traces. On va passer tout de suite à un extrait de l'interview que j'ai faite avec Jenny Corin, justement, qui nous parle de l'interprétation du genre en archéologie.
Au sujet de la tombe de Vix, est-ce qu'il faut y voir une prêtresse qui pratiquait des oracles à la manière de celle de Delphes, qui est une proposition d'interprétation à laquelle on peut arriver par l'analyse des objets de la sépulture et surtout de l'iconographie qu'il représente. En même temps, il y a de multiples manières de les lire, et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à lire ces propositions parce qu'effectivement, ça donne de la densité aux sociétés que l'on essaie de comprendre. Maintenant, à mon sens, ce n'est pas plus démontrable que simplement arguer que cette femme avait simplement, d'imaginer une société matriarcale avec cette femme qui commande avant tout un site situé à une voie de passage essentielle qui lui permet de contrôler l'ensemble du trafic entre le monde méditerranéen, le bassin parisien et le reste du monde continental. L'archéologie vise à reconstituer un discours de nature historique et sociale. Le problème, c'est que dans une société qui n'écrit pas, dont les seuls témoignages sont ceux d'observateurs étrangers qui partageaient une culture radicalement différente. Des témoignages qui sont extrêmement partiels, extrêmement lacunaires, soit on se refuse à l'interprétation, et auquel cas on a des catalogues d'objets, ce qui n'est pas plus satisfaisant, soit on va très loin, ce qui donne effectivement une énorme densité aux sociétés que l'on essaie de comprendre, en prenant le risque d'en restituer une vision qui n'était pas la réalité. Soit on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Et je crois que c'est ce à quoi aspire l'essentiel de la communauté archéologique, même si là, c'est vrai que ça, c'est peut-être un point de vue personnel, je pense que la communauté archéologique devrait travailler en collaboration avec des ethnologues et des anthropologues culturels. Il y a des choses qui, moi, m'ont toujours beaucoup étonnée. Le rapport aux fins, aux délicats de ces objets, pareil le miroir, les flacons à parfum, les rasoirs, petites forces de toilette. C'est vu comme du féminin lorsque c'est dans des sépultures où il n'y a aucun élément de clairement masculin. À partir du moment où c'est découvert dans des sépultures où il y a des éléments indiscutablement masculins, notamment des armes, ces éléments sont interprétés d'une toute autre manière. Ce qui me plaît, c'est de relever la différence dans le regard qu'on va porter sur les mêmes objets lorsque l'on considère une tombe féminine et une tombe masculine.
Alors c'était Jenny Corin, une intervention très dense. J'invite nos deux intervenants à réagir dessus. Peut-être d'abord Christophe Darmanjat sur cette question de l'ouverture de l'archéologie à d'autres disciplines et notamment à l'anthropologie sociale dont vous êtes ici l'éminent représentant.
C'est sans doute beaucoup dire, mais oui, évidemment, on étudie la même chose. On étudie des sociétés, alors qui, en l'occurrence, n'ont pas laissé de traces écrites. Moi, j'ai tendance à penser que, de toute façon, l'étude des sociétés est en soi un champ scientifique, que ce soit les sociétés à écriture ou les sociétés sans écriture. Et puis, les sociétés sans écriture, il y a des gens qui en ont observé alors qu'elles étaient encore vivantes, ou disons pas complètement mortes. Et puis, il y a des gens qui les observent sous la forme, au travers des traces matérielles qu'elles ont laissées. Il me semble que les uns ont absolument besoin des autres. Les archéologues ont besoin de l'ethnologie pour rendre un petit, pour mettre de la chair autour de tout ça, et effectivement pour pas ne se borner à faire des catalogues d'objets, parce que sinon c'est de la science extrêmement frustrante. Et les ethnologues, s'ils veulent donner un tout petit peu de profondeur temporelle à ce qu'ils étudient et pouvoir faire non seulement des photographies, mais essayer de reconstituer le film, est-ce que ça a été l'évolution sociale, ils ont absolument besoin de l'archéologie, sinon ils font des spéculations. Donc il me semble que l'un et l'autre, il y a un éminent, alors pour le coup lui il était éminent, personnage qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui je crois incarnait ça, même si je ne pense pas être d'accord avec tout ce qu'il disait, mais en tous les cas moi j'ai beaucoup appris auprès de lui, c'est Alain Testard, et qui justement était à la synthèse de ces deux courants.
Une question à Chloé Bellard sur cette question d'équilibre, de juste équilibre. Dans le travail de terrain, cet équilibre, on le négocie comment ?
Déjà, ça va être important dans le sens que l'ethnographie va permettre justement d'ouvrir nos interprétations et donc de prendre en compte l'implication de nos propres préjugés dans la lecture qu'on a des vestiges. Et je pense que c'est en ça, en fait, que c'est réellement primordial.
Et une fois qu'on en a conscience, que peut-on en faire de cette conscience ? Quel résultat peut-on malgré tout en tirer ?
Quel résultat ? Je dirais qu'il faut avoir peut-être une vision d'ensemble et de recadrer, en fait, chaque élément, chaque objet dans l'ensemble. Alors moi, du coup, ça va être les pratiques funéraires. Et donc effectivement, peut-être que les armes sont plus couramment déposées avec les hommes ou des parures avec les femmes. Mais est-ce que à l'échelle de l'ensemble des pratiques funéraires, donc c'est-à-dire le traitement du défunt, la structure de la tombe, le nombre d'objets par exemple, est-ce que ça va avoir un réel impact, un impact important en fait ? Je pense que c'est par là qu'il faut commencer.
Alors justement, vous parlez des armes qui sont donc liées aux hommes. Jenny Corin parlait De ces interprétations autour de princesses, chamanes. On a la même chose pour les sociétés préhistoriques, hein, déesses mères liées à la fertilité, etc. Et puis donc des hommes qui sont liés à l'image de la chasse, de la guerre, des images animales aussi, l'image du taureau, et puis des images plus sexuées, effectivement, donc liées à l'image du phallus et du sexe féminin. Mais Jenny Corin parle aussi d'exceptions à la règle, donc des femmes qui peuvent être enterrées avec des objets dits masculins et des hommes enterrés avec des objets dits féminins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Mais je pense déjà que c'est important de ne pas les considérer comme des exceptions. C'est justement, c'est là qu'on va peut-être commencer à faire bouger les choses, c'est en essayant d'intégrer ces exceptions, ces indéterminés, ces cas aberrants, dans un contexte archéologique cohérent, en prenant l'ensemble, voilà, l'ensemble des vestiges d'une zone géographique, d'un contexte chronologique donné, à partir de moment, même en voyant sur un contexte plus large.
Et donc, comment, par exemple, essayer d'expliquer le cas de la Dame de Vix ? Que peut-on en dire, excepté que c'est une exception ?
Déjà, on peut en dire que maintenant, au fur et à mesure des découvertes, c'est plus vraiment une exception. Elle intervient justement dans un contexte chronologique de développement. Donc là, c'est les tombes à chars de Quatre-Roues, à Quatre-Roues, donc à la fin du premier âge du fer. Et là, on a de plus en plus de tombes à chars de femmes, à cette période-là. Donc en fait, elle s'inscrit dans un contexte, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, en fait.
Christophe Darmangea, vous aviez une remarque
J'en aurais plusieurs, mais je vais essayer de ne pas être trop
Allez-y.
Long. Coupez-moi la parole. Mais oui, là où l'ethnologie peut éclairer l'archéologie, c'est tout simplement en nous donnant des exemples de choses auxquelles on ne penserait pas, ou inversement, en montrant qu'il y a quand même des probabilités extrêmement rares. En Papouasie, traditionnellement, ceux qui ont des jolis ornements, qui passent des heures à faire ça, avec des superbes parures, des plumes, etc., c'est les hommes, et les femmes, on ne les décore pas parce qu'on s'en fout, et c'est une société extrêmement patriarcale. Hein. Donc pour dire que des choses que nous, on a tendance à associer, elles ne marchent pas forcément dans toutes les sociétés. Alors par contre, quand la personne interviewée, disons, renvoie dos à dos l'interprétation en disant y en a qui disent que c'est une femme chamane ou prêtresse, mais ça pourrait tout aussi bien être un matriarcat, moi je tique un petit peu parce que on connaît des exemples de sociétés où les femmes sont chamanes ou prêtresses. On n'a jamais vu une société où les femmes dirigeaient. Et donc je pense que ça oriente quand même la probabilité, en tous les cas, sans compter que vous pouvez avoir des femmes riches sans que ce soit des matriarcats. Hein. Et je ne sais pas, vous prenez la France du début du XXe siècle, vous avez des femmes très riches, des héritières, des femmes qui ont épousé, etc. Elles n'ont même pas le droit de vote. Et ce n'est pas pour autant. Donc, elles peuvent être très riches, immensément plus riches que les ouvriers qui travaillent dans leurs usines, et ce n'est pas pour autant un matriarcat. Donc, c'est là où l'étude des sociétés vivantes nous donne quand même un certain nombre d'éléments sur les sociétés du passé.
Et qu'est-ce que cette absence de pouvoir absolu, donc aussi de ce qu'on a pu appeler un matriarcat primitif, peut nous révéler aujourd'hui, peut nous dire à nous,
alors,
contemporains.
Le problème du mot matriarcat, c'est qu'on l'utilise dans deux sens qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire que soit on dit c'est la même chose que le patriarcat, mais à l'envers. Donc patriarcat, c'est le pouvoir des hommes sur les femmes. Matriarcat, c'est le pouvoir des femmes sur les hommes. Façon Amazon, si vous voulez. Et pendant longtemps, au sens strict, c'est ça que ça veut dire. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui l'utilisent pour dire c'est quand il n'y a pas de domination masculine avérée, qu'il y a une espèce d'équilibre entre les sexes. Alors, on va appeler ça du matriarcat. Alors, vous voyez, ça n'aide pas à s'y retrouver quand même. Hein. Bon. L'archéologie ne nous montre pas de société où, qu'on puisse clairement interpréter comme matriarcale, etc. Alors, après, ce qui est là aussi très actuel là-dedans, c'est que cette domination, en tous les cas masculine, repose partout et. Je crois que c'est Pierre Bourdieu qui le dit, sur l'exclusion de fait ou de droit, mais dans ces sociétés-là, c'est de droit, des femmes d'un certain nombre de choses, et en particulier des armes qui sont quand même ultimement quelque chose de pas anodin. C'est pas compliqué. Les gens qui sont aujourd'hui pour l'égalité des sexes, nous on dit égalité des sexes, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des sexes? Si ça veut dire quelque chose, c'est la disparition des genres. Ça veut dire que n'importe qui, homme ou femme, doit pouvoir vivre la vie qu'il a envie, dont il a envie, pardon, indépendamment du sexe que la nature lui a donné. La société ne doit pas vous enfermer ou vous pousser dans telle ou telle direction, exactement comme elle devrait être transparente à la couleur de peau, etc. C'est ça que ça veut dire, l'égalité des sexes. Et par contre, ceux qui sont contre l'égalité des sexes, bah, de manière extrêmement logique, ils sont pour maintenir cette séparation entre les genres et dire qu'il y a des occupations d'hommes, des occupations de femmes, des habits d'hommes, des habits de femmes, des lieux pour les hommes, des lieux pour les femmes, des boulots pour la femme, tout ce que vous voulez. Voilà, et c'est d'une triste et brûlante actualité.
Je pense que ce qui est important et ce que les gender studies donc, avancent, c'est donc certes il y a cette valence différentielle des sexes dans le nombre de sociétés, etc. Mais c'est qu'il ne faut pas la prendre comme étant un fait. C'est voilà, une fatalité, justement il faut l'étudier, voir jusqu'à quel point, dans quel domaine ça va être important. C'est questionner en fait dans tous les domaines et pas prendre ça comme une généralité universelle immuable.
C'est sur cette question de l'immuabilité que je voulais un petit peu approfondir. Est-ce qu'il y a des évolutions au cours du temps ?
Appréhender les rôles des individus, ça va être compliqué. Donc après, les différences matérielles qui peuvent exister entre des tombes d'hommes et de femmes, pour la période que je connais plus, donc l'âge du fer, en fait, la seule différence notable, c'est effectivement la présence d'armes dans les tombes d'hommes. Et de certains éléments de parure dans les tombes de femmes, et dans certaines tombes de femmes, en fait.
D'accord.
On ne va pas pouvoir aller plus loin, en fait.
Et selon vous, qu'apporte l'étude des genres, finalement, à la discipline archéologique ?
Pour moi, ça permet d'abord de prendre en compte nos préjugés, que les vestiges archéologiques, et notamment funéraires, ça ne se résume pas seulement à des femmes à parure et des hommes à armes. Il y a aussi tout un tas d'autres défunts. On ne prend pas en compte des exceptions. On essaye de réinscrire ça dans un contexte global.
Puis aussi, ça permet de comprendre la nécessité de la pluridisciplinarité, on l'a vu, et puis la compréhension de variabilité au cours du temps.
Voilà, c'est ça.
Entre les cultures humaines. J'aimerais qu'on passe le dernier extrait de l'interview que j'avais menée avec Jenny Corin, portant sur l'apport finalement de l'étude des genres en archéologie à la vision de notre société justement actuelle, pour rebondir sur ces idées préconçues.
Il est bien évident que dans des cas de figure où on a des indices pour montrer que les femmes ne sont pas uniquement dans une position dominée ou de soumission à un pouvoir masculin, où elles ne sont pas simplement dans la reproduction de schémas que l'on attend d'elles, de liens de mariage, d'enfantement, et qu'il peut y avoir autre chose, notamment, évidemment, ce que l'on documente le mieux, c'est toujours pareil, c'est le contrôle du pouvoir politique. Il est bien évident que si on pouvait avoir plus d'éléments, c'est extrêmement séduisant à essayer de creuser, parce qu'évidemment, ça nous renvoie à une image extrêmement intéressante, surtout dans des sociétés anciennes que l'on dit par définition sont des guerriers, ils ont des armes, ils ont des chars, c'est une société masculine qui repose sur la guerre, etc., etc. Oui, d'accord, sauf que dans ce schéma, la femme n'est pas forcément position subalterne, et que la femme peut être représentée, alors on est toujours pareil, c'est un phénomène de représentation par autrui, mais elle peut être représentée avec les mêmes insignes du pouvoir, à l'exception, toujours et notable, de l'armement, puisque même la tombe de Vix n'a pas d'épée, n'a pas d'armes, elle a des images guerrières, mais elle n'a pas d'armes, ce qui est quand même une différence remarquable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, si on reprend nos tombes d'élite féminine, dans des terroirs où il n'y a pas d'élite masculine à la même période, c'est ce phénomène-là qui est intéressant, c'est pas qu'on ait une élite féminine qui côtoie une élite masculine dans la même région, j'entends, dans le même territoire, qui donc prouve que le contrôle du territoire en question, il est aux mains des femmes. Si on considère que ces marqueurs sont opérants, ce que l'on fait lorsqu'il s'agit de tombes d'hommes, on est obligé de constater que pour certains territoires, certes particuliers, ça nous montre que, effectivement, si on applique les mêmes schémas interprétatifs que l'on applique aux régions où il y a des tombes avec ces mêmes marqueurs, mais masculines, eh bien, on est obligé d'admettre que les femmes avaient un contrôle politique, un contrôle économique. Le plus gros cratère dont nous ayons preuve de l'existence de l'ensemble du monde européen, pris au sens très large, y compris du monde méditerranéen, il n'a pas été trouvé dans le monde grec, il n'a pas été trouvé dans le monde romain, il a été trouvé en Bourgogne, dans la tombe d'une femme. En tout cas, c'est un élément à considérer dans une, lorsque l'on envisage la société actuelle et la place de la femme actuellement, puisque la femme a toujours autant de difficultés à obtenir des places, des postes à responsabilité et des postes politiques de très haute importance. Hein. L'archéologie a au moins le mérite de nous montrer que ça avait l'air d'être tout aussi compliqué dans les sociétés anciennes. Mais dans certains contextes bien particuliers, ce n'était pas impossible.
C'était donc à nouveau Jenny Corin que nous avons interviewée pour vous récemment. Elle pose là encore plusieurs questions de fond. Peut-être souhaitez-vous réagir d'abord indépendamment de mes questions, Christophe ?
Ben juste, alors moi je ne connais pas du tout hein, la période dont elle parle de l'âge du fer, mais sur le fait que certaines sociétés guerrières, pas toutes, mais certaines sociétés guerrières ont pu au contraire donner une place élevée aux femmes, c'est un fait bien connu en ethnologie. Je parlais des Iroquois, justement, les Iroquois c'était une machine de guerre, hein, c'était les terreurs de la région, ils partaient en expédition pour aller rapter ou faire des scalps à des centaines de kilomètres de leur territoire, et c'est le fait que les hommes étaient absents comme ça pendant de longues périodes qui a manifestement pesé dans le sens du fait que les femmes exerçaient un certain nombre de responsabilités, y compris politiques. Alors la guerre, quand elle se déroule sur votre territoire, en général, c'est pas terriblement bon pour les femmes, mais quand ça éloigne les hommes, ça peut avoir des effets bénéfiques. En tous les cas, en ethnologie, il y a plusieurs exemples comme ça.
On parle beaucoup là de la place des femmes, et puis c'est vrai qu'on a tendance en général à confondre l'archéologie du genre avec l'archéologie féministe. Que dire des hommes dans tout ça ? Est-ce que aussi on leur rôle à jouer justement dans l'observation des genres ?
Ah ben, tout à fait, et même, je pense que c'est même peut-être même plus compliqué que pour les femmes, parce que justement, et donc toujours pour l'âge du fer, il y a quand même ce statut du guerrier, là aussi qu'on croit intemporel et acquis, qui montre en fait des variations extrêmement importantes. Tous les hommes n'étaient pas guerriers non plus. Donc là aussi, il y a une identité masculine comme une identité féminine archéologique qui est extrêmement diverse en fait.
Et il y a aussi peut-être une dernière nuance que j'ai pu retrouver dans vos travaux à tous les deux, c'est celle qui dit aussi que bah, le mobilier qui est dans la tombe du défunt, il correspond pas forcément seulement à l'identité du défunt, mais encore et surtout à des projections des vivants qui l'ont enterré. Chloé.
C'est là aussi c'est fondamental, et c'est en ça que la notion de genre est importante. On part du principe simple, ce sont les vivants qui enterrent le défunt. Donc nécessairement, on ne va pas retrouver son identité propre. Donc c'est ce qu'on va pouvoir. On a accès en fait à ce que le défunt représentait pour les vivants, et donc on a accès à l'idéologie funéraire des populations, et non pas au rôle et aux positions sociales réelles des individus dans les sociétés.
Et comment est-ce qu'on peut étudier les évolutions de ces idéologies ? À quoi est-ce qu'on le trouve ? Par exemple, je sais que vous avez travaillé sur des ceintures, leur disposition dans des tombes.
Oui,
par exemple.
Ce que j'avais mis en évidence, c'est justement le rôle de la ceinture dans la distinction homme-femme, et qu'elle apparaît seulement à partir d'un moment précis. Donc ça, on voit ça au niveau donc, de la typologie de la ceinture, qui à partir 4e, 3e siècle va mobiliser une masse beaucoup plus importante en métal. Mm-hmm. Et on a aussi la différenciation, c'est qu'on retrouve des ceintures en position non fonctionnelle, donc, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas portées par le défunt et qu'elle a été simplement déposée dans la tombe. Et donc là, à partir de ce moment-là, est-ce que c'était une ceinture qui appartenait aux défunts ? Est-ce qu'elle a seulement été rajoutée par les vivants ? Enfin, c'est tous ces genres de questions qui montrent bien la nuance qui peut exister.
Christophe Darmanja ?
Alors, pourquoi mettre des choses dans la tombe des gens ? La première raison, c'est parce qu'elles sont à lui ou à elle. Alors évidemment, bah, dans une société inégalitaire, on va voir des tombes de riches et des tombes de pauvres. Bon, ça c'est ce qui saute aux yeux, c'est la première interprétation qui vient aux yeux. Bon, mais c'est pas la seule. Alors je repense aux Iroquois par exemple, ils ont des pratiques funéraires assez étonnantes. Ils enterrent les gens individuellement, mais quand vous mourrez, vos biens sont distribués. Donc on vous enterre avec rien, mais par contre, alors là, on montre à quel point vous étiez quelqu'un de sympathique, de généreux, etc. Et pour faire bonne mesure, vos héritiers en rajoutent. C'est-à-dire que non seulement quand grand-papa meurt, ça ne vous enrichit pas, mais ça vous appauvrit parce que vous êtes obligé de faire la distribution à tout le monde pour montrer, etc. Mais tous les 10 ou 12 ans, on fait ce qu'on appelle la fête des morts. C'est la plus grande fête dans le monde iroquois. Qu'est-ce qu'on fait ? On déterre tous les corps qu'on a enterrés depuis 10 ou 12 ans. On les nettoie soigneusement, alors je vous passe les détails scabreux qui vont avec. On les trimballe à dos d'homme de village en village, etc., en faisant des grands banquets, etc. Et tout ça culmine dans un banquet gigantesque où Lafito dit « les gens se dépouillent de ce qu'ils ont de mieux ». Ils prennent toutes les plus belles couvertures. On dirait qu'ils bossent toute l'année, qu'ils se privent toute l'année rien que pour cette fête-là. Et on fait une fosse commune dans laquelle on enterre les gens et on met toute une partie de ces richesses. Puis les autres richesses, on les redistribue aux riches, parce que chez les Iroquois, il y avait aussi des riches et des pauvres. Alors imaginez l'archéologue, là aussi, qui passe 1000 ans après et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Bien du plaisir.
Donc Chloé, je pense que vous avez encore beaucoup de travail sur les chantiers de fouilles. Mais en attendant, je vais passer la parole à notre dernière chronique de cette émission. Martine va nous parler de genre.
En se substituant à l'intuition naturelle de la différence sexuelle, la doctrine du genre imposée par l'État détruira la société, affirment les opposants de l'ABCD pour l'égalité entre les filles et les garçons. En réponse, les promoteurs de ce dispositif ont opté pour la stratégie du raccourci argumentatif. Les détracteurs se trompent car il n'y a pas de théorie du genre, mais seulement des études de genre, des gender studies. Il faut dire que, n'en déplaise aux camps progressistes, le succès provisoire de cette réplique tient moins à ses qualités intrinsèques qu'au manque d'imagination de ses adversaires. En effet, pour renvoyer le fardeau de la preuve du côté des promoteurs, les détracteurs feraient mieux de céder sur ce point au lieu de répéter comme des automates qu'il y a bien une théorie du genre. De fait, cela ne changerait rien à leur argument, qui pourrait se reformuler ainsi. Non pas la théorie du genre, mais les études de genre imposées par l'État détruiront la société. Que diront alors les promoteurs ? Qu'il n'y a pas d'études de genre ? Non. La seule manière de répondre est de nier qu'une nouvelle approche de la sexualité détruira la société. C'est l'objectif de cette chronique. Explicitons d'abord le mécanisme que les détracteurs ont à l'esprit. Les études de genre détruiront la société par l'intermédiaire de la confusion identitaire qu'elle installera chez les jeunes et de l'indifférenciation sexuelle qui s'en suivra. D'autre part, la société se compose de familles, au sens où l'intégration de la société dépend de l'intégration des familles. Dans cette approche, une famille est une unité sociale comprenant un couple hétérosexuel d'un homme masculin et d'une femme féminine, plus leurs enfants biologiques. Si cette unité est intégrée, la société est intégrée. La prémisse clé, bien sûr, est que l'intégration de cette famille exige la complémentarité du masculin et du féminin, sans quoi il n'y aurait pas de véritable interdépendance. On comprend pourquoi les études de genre détruisent la société. Elles mettent à mal cette complémentarité indispensable à la solidarité familiale. En devenant doctrine officielle, les études de genre forceront les jeunes générations à l'indifférenciation sexuelle, les porteurs de pénis et de vagins, dépourvus des masculinités et des féminités qui les rendaient autrefois mutuellement indispensables, n'auront plus de raison de s'unir dans des familles. Pas de famille, pas de société. Bien sûr, tout est disputable dans cet argument, mais peut-être le plus disputable est l'omnipotence accordée aux études de genre intronisées par l'institution scolaire. Comme si un discours officiel pouvait magiquement changer les mœurs du jour au lendemain. Les études de genre trouvent un écho dans notre société parce que, en insistant sur le caractère non pas naturel, mais obligatoire des identités sexuelles, elle formalise une expérience typique qui précède son expression académique. De la même manière, l'indifférenciation sexuelle n'est pas la conséquence future de la doctrine officielle du genre, mais un processus en cours d'une durée bien plus longue que le débat d'actualité. Qui peut manquer de noter que les garçons d'aujourd'hui sont plus doux et que les filles d'aujourd'hui sont plus déterminées que ceux et celles d'autrefois ? que les garçons s'autorisent de plus en plus l'expression de la peur ou de la tristesse, de même que les filles n'hésitent plus à se montrer colériques ou désireuses. L'indifférenciation sexuelle, ou plus précisément de genre, est une facette ordinaire, bien qu'insensible, de notre expérience sociale présente, et non la conséquence future de la déplorable inculcation de l'idéologie de genre. L'expérience du genre comme une obligation sociale et l'indifférenciation croissante des identités sexuelles ne sont pas la conséquence des études de genre, mais bien leurs conditions de possibilité. La prise de conscience du genre et l'indifférenciation détruiront-elles la famille et la société ? Le partage des tâches domestiques chez les couples hétérosexuels biactifs montre que ces évolutions conduisent moins à l'anéantissement de la complémentarité en général qu'au bouleversement de la complémentarité traditionnelle entre l'homme et la femme. Chaque couple doit désormais inventer sa complémentarité en fonction de sa situation unique au lieu d'appliquer les recettes du passé. Autant dire des couples ou autres arrangements qui ne se composent pas d'un homme masculin et d'une femme féminine qui doivent tout inventer. Le principe est pourtant le même. Plus d'initiatives personnelles, moins de prédestination. Précisément parce que ce processus est en cours depuis longtemps, il me semble que les sentiments de ceux qui les déplorent, tout en étant bien entendu légitimes, sont moins de l'ordre de la rébellion qui espère que de la nostalgie qui regrette. Avec ou sans théorie du genre, leur combat est déjà perdu.
Merci Martine. J'espère que cette chronique vous aura inspiré parce que la parole est maintenant à vous, messieurs, dames, membres du public, pour témoigner, pour interroger nos invités, interroger nos chroniqueurs et apporter la contribution que vous souhaitez.
Jean-Pierre Mohen.
Voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous disiez. La petite critique que je voudrais faire, c'est que vous travaillez vraiment dans le culturel. Et il y a des autres approches qui existent, par exemple en histoire naturelle, et qui permettraient d'avoir un certain nombre d'informations assez précises et très utiles. Je pense à l'anthropologie, par exemple. Une anthropologie scientifique. Je pense aussi à la détermination de certaines usures, par exemple, ou utilisations de ces vaisselles qui contenaient certaines boissons ou certains objets autres en matière organique, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a, selon vous, une sorte d'ouverture sur ces recherches qui ne sont pas les recherches, j'allais dire, culturelles? Elles deviennent culturelles une fois qu'on a fait les déterminations. Mais il faut commencer par faire ces déterminations. Ne serait-ce que, par exemple, vous avez beaucoup parlé des sépultures. Quel est l'âge de ceux qui sont enterrés? Est-ce que c'est beaucoup de jeunes? Est-ce que c'est des CD, etc.? À mon avis, il y a une sorte de contexte général qui pourrait être ajouté à tout ce que vous avez dit et qui est fort intéressant.
Chloé Bellard.
Oui, c'est bien sûr, quand on a parlé de tout ça, c'est bien évidemment, il y a des études anthropologiques pour déterminer le sexe et l'âge au décès des défunts. Donc ça, bien évidemment, c'est... Et c'est justement, on en revient au début, ou en archéologie, c'est utile encore de maintenir la séparation entre sexe et entre genre. Le sexe va effectivement relever de l'anthropologie biologique.
Jean-Pierre Mohen.
Et est-ce que pour les femmes, on arrive à savoir si elles ont accouché ou pas dans les squelettes archéologiques?
Oui.
Parce que ce serait intéressant aussi de le savoir.
Christophe Darmangea.
Oui, un autre exemple que je connais qui n'est pas celui de l'âge du fer ici, mais qui est celui de la population archéologique où on a retrouvé une proportion élevée de femmes en armes. Enfin, une proportion élevée. Restons calmes. 10 à 15% des gens en armes étaient des femmes. Et ça représentait, je crois, pareil, environ 15% des femmes. C'est la population qui s'appelle les Sauro-Sarmates. Alors, c'était une branche des Scythes. des gens qui vivaient, disons, dans la Roumanie, l'Ukraine, actuellement, quelques siècles avant notre ère. Et justement, c'est là où, dans un premier temps, les archéologues retrouvaient des tombes avec des armes, disaient, bon, ben voilà, c'est des hommes. Et on n'en parlait plus. Et il a fallu effectivement des études d'anthropologie physique. L'anthropologie, c'est un mot qui veut dire deux choses. Il y a anthropologie sociale, c'est quand vous étudiez les sociétés, anthropologie physique, quand vous étudiez les êtres humains, les individus, disons. Donc, avec l'anthropologie physique, on a pu voir qu'effectivement, une partie de ces gens-là étaient des femmes. Et du coup, ça donne à réfléchir sur cette situation particulière de ce peuple particulier qui, de manière minoritaire, mais non nulle, armée des femmes. Alors, cela dit, en ethnologie, on trouve aussi des cas d'exception comme ça. Enfin, en Amérique du Nord, chez les Indiens, il y avait un certain nombre de tribus qui admettaient que des femmes puissent courir des carrières d'hommes, voilà, qui pouvaient devenir des guerrières, etc. De la même façon que des hommes adoptaient des métiers de femmes. Mais il y avait quand même les deux cases. Si vous voulez. On admettait qu'un individu pouvait être rangé dans la case qui ne correspondait pas à son apparence physique. Mais enfin, il y avait deux cases.
D'autres questions ?
Il y a également la célèbre population des Amazones qui a vécu au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ et qui était observée curieusement par les sauromates qui essayaient de s'approcher de ces femmes pour comprendre comment fonctionnait leur société.
Je vais rectifier un peu ce que vous dites. Alors peut-être que c'est un débat, mais les Amazones n'ont pas vécu au 3e et au 4e siècle. Les Amazones, jusqu'à preuve du contraire, sont un peuple mythique. On a dessus des récits des Grecs qui disent il y a eu dans le temps des populations gouvernées par les femmes, etc. Et elles ont fini par s'allier aux populations autour. Et puis voilà. Donc même du temps des Grecs qui nous laissent des textes, ils disent de toute façon c'est fini depuis longtemps cette affaire-là. Alors en revanche justement, une hypothèse qui a été formulée par Alain Testard et que je trouve extrêmement convaincante à propos des sauro-sarmates, c'est que justement les Grecs ont inventé l'histoire des Amazones pour expliquer pourquoi dans des populations qui étaient des barbares, j'allais dire évolués, enfin c'était des barbares sans état et sans cité, mais enfin c'était déjà des gens très organisés, pourquoi ces gens-là armaient une partie de leurs femmes. Ce qui pour un grec de l'époque classique était un truc, le ciel allait nous tomber sur la tête. Enfin, je ne sais pas s'ils ont fait à l'époque des manifestations pour protester contre ça, mais enfin, vous voyez, c'est du même ordre. Donc, pourquoi donc des gens vont imaginer d'armer une partie de leurs femmes ? Eh bien, explication, plus exactement explication mythique des Grecs, parce que ces gens-là sont les descendants d'une union entre un peuple, j'allais dire, normal, où on n'arme pas les femmes, et puis d'un peuple putatif, celui où il y avait des femmes armées, des Amazones, etc. Mais donc, jusqu'à preuve du contraire, les Amazones sont un mythe, mais peut-être qu'il y a un mythe qui s'explique bien, justement, par les traces archéologiques qu'on a à l'époque. Je vous renvoie à l'article de Testard qui doit être lisible en ligne, je pense, là-dessus.
Merci, Christophe Darmanjat. Une autre dernière question ?
Bonjour. Oui, je voulais vous poser une petite question, parce que quand on voyage de par le monde, on s'aperçoit que le statut de la femme en Asie est quand même très différent de celui de l'Europe, puisque quand on va dans les villages en Asie, on voit souvent des femmes casser des cailloux, faire des routes, planter le riz, alors que les hommes sont assis sous des arbres en train de fumer. Ma question, elle est un petit peu spécifique et se rapproche à ça. Au Paléolithique, par exemple, on a beaucoup de Vénus qui sont représentatives de la femme, de la mère, de la reproduction, et on a l'impression que dans le Sud, il n'y a rien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le statut de la femme, justement, en archéologie, est un petit peu dépendant du lieu et de l'endroit ? Est-ce que dans les populations celtiques, par contre, on a plus intérêt à valoriser la femme que dans les populations du Sud ?
Chloé Bellard.
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas y avoir deux statuts de la femme fixes. On a des positions sociales des femmes qui évoluent, et effectivement en fonction des contextes sociaux, géographiques, en fonction des besoins sociaux, oui, effectivement. Ouais. Alors après, à faire des comparaisons ça serait peut-être un peu hasardeux dans les connaissances actuelles, mais voilà.
Oui, et puis juste pour dire qu'on n'a jamais réussi à relier le statut des femmes à quelque autre variable simple que ce soit. ni la d'altitude, ni le degré de développement technique, ni le degré de bellicisme d'une société. Enfin, il y a des tas de gens qui ont essayé des tas de choses. Il n'y a rien qui colle de façon claire, simple, évidente. Et pour le cas de l'Asie que vous citez, l'Asie est extrêmement diverse en réalité au niveau des statuts des femmes. Alors je ne parle même pas, comme le dit Chloé, au sein d'une même société où il peut y avoir des tas de situations différentes, mais d'une société à l'autre, vous avez des sociétés en Asie qui sont des sociétés effectivement où les femmes sont très mal traitées, enfin très mal considérées, et vous avez aussi un certain nombre d'exemples traditionnels de, entre guillemets, matriarcat qui viennent d'Asie. C'est-à-dire les Minangkabau de Sumatra ressemblent beaucoup aux Iroquois, les femmes possèdent les maisons, possèdent les champs, possèdent les bœufs, ce qui est rarissime chez des peuples d'agriculteurs, etc. Et le mari, économiquement, ne vaut rien. Par ailleurs, il se rattrape sur la politique, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Et il y a d'autres populations comme ça. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas l'Asie du point de vue de la situation des hommes et les femmes, de même qu'il n'y a sûrement pas eu l'Europe, de même qu'il y a... Voilà. C'est, en fait, tout ça est très variable et on n'a pas, je crois, de clé simple qui permettent de comprendre ces variations, enfin en tous les cas de les expliquer au cas par cas.
Et par contre, voilà, c'est ce qui va nous permettre en archéologie d'envisager des possibilités de systèmes sociaux de ce type-là.
Je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se revoit très vite sur les ondes de Radio Campus.